Alors, en tant que parent, une des choses que j'essaie d'éviter avec mes enfants dans leur éducation, c'est les deux poids, deux mesures. Autrement dit, je ne veux pas leur imposer des règles sur la base des principes moraux que j'enfreins moi-même. Ce serait contre-productif si j'interdisais à mes enfants de mentir alors que moi, je mens, par exemple. Ou ce serait inutile pour leur éducation si je leur interdisais de calomnier des gens alors que moi, j'ai du poison qui sort de ma bouche en permanence. Mais pire encore, imaginez que j'interdise à mes enfants de se frapper les uns les autres, mais que je fasse une exception pour ma fille Margot, en lui disant « Vas-y ma petite, frappe tes frères et sœurs quand tu veux. » Pas très utile. Imaginez que je dise à Pascal « Aujourd'hui, je te dispense exceptionnellement d'obéir à toutes les règles que j'ai imposées à tes frères et sœurs. Vas-y, fais comme tu veux. » Ce n'est pas une bonne manière d'élever des enfants. Mais c'est exactement l'impression qu'on a de Dieu des fois. Quand le Père Céleste a donné à Moïse les 10 commandements, dans l'Exode chapitre 20, il a inclus une stricte interdiction du meurtre. Mais ça ne l'a pas empêché, lui, de tuer des êtres qu'il avait créés. Il tue les gens tout le temps dans des déluges de feu, par des plaies, par exemple. Il a envoyé des serpents pour mordre ses enfants dans le désert, en Nombre chapitre 21. Il a ouvert la terre une fois pour engloutir plusieurs familles, en Nombre chapitre 16. Même dans le Nouveau Testament, il tue quelques pauvres chrétiens tout simplement à cause d'un petit mensonge, en Actes chapitre 5. On dirait que Dieu est un tyran qui enfreint ses propres commandements. Mais il y a pire, il y a pire. Après avoir dit que le meurtre est interdit, il institue la peine de mort contre les meurtriers. On a l'impression que Dieu institue le meurtre en réponse au meurtre. Et pire encore, Dieu dit à son peuple par rapport à leurs ennemis, allez, faites disparaître cette nation ou ce peuple de la face de la terre. Tuez-les tous. Pourquoi donc ces deux poids, deux mesures? Ou plus précisément, Dieu a-t-il déjà enfreint le sixième commandement? Comment réconcilier l'interdiction du meurtre avec l'ordre de tuer? Comme beaucoup de sujets relatifs au christianisme et à l'Ancien Testament, une question formulée en 30 secondes peut nécessiter 30 heures de recherche, de réflexion et d'explication. Mais pour faire simple, je dirais tout simplement que la réponse à cette question se trouve dans la différence qu'il y a entre le fait de commettre un meurtre et le fait d'ôter la vie. Mais je vais développer cette idée en parlant tout d'abord de la nature du sixième commandement et ensuite en parlant de la nature de la justice de Dieu exercée contre les Cananéens et contre le peuple d'Israël. Alors, quand on parle de Dieu et du meurtre, on doit définir les mots, n'est-ce pas? Et donc, le sixième commandement d'Exode chapitre 20, comme les autres commandements qui l'entourent, doit être compris dans le contexte de celui qui a donné le commandement. Et un bon exercice pour comprendre qui est ce Dieu consiste à étudier comment Dieu se révèle dans le récit d'Exode. C'est logique parce que les 10 commandements se trouvent en Exode 20, donc si on étudie Exode, ça va révéler des choses par rapport à Dieu. Par exemple, Dieu se révèle dans Exode 3 comme étant Yahvé, ce qui veut dire je suis, puisqu'il s'agit précisément du verbe être à la première personne en hébreu. Dieu est le Dieu qui est, il existe. Son nom représente le fait que la vie est en lui. Et plus tard, pendant les plaies contre les Égyptiens, Dieu se révèle comme étant celui qui s'oppose au Dieu démoniaque des Égyptiens. Et pour plus sur ces questions-là, je vous invite à réécouter des prédications d'Alex des très très bonnes prédications d'Alex sur le début d'Exode. Mais dans le récit, Dieu se manifeste comme le Dieu qui est plus fort que les dieux. Il est Elohim, ce qui veut dire celui qui est au-dessus des dieux. Le Dieu des dieux, dans un sens. Mais on voit aussi que ce Dieu des 10 commandements est un Dieu qui tient ses promesses. Il se souvient de son alliance avec son peuple. Il est un Dieu de pardon. Il est lent à la colère quand son peuple pèche contre lui. Mais il est aussi un Dieu de justice. Il punit le mal. On lit quelquefois dans le récit que Dieu est saint aussi. Il ne tolère pas le mal dans sa présence. Il est autre que sa création. De plus, il est jaloux. C'est-à-dire, il veut être le seul objet de notre adoration. Même dans les deux premiers commandements, Dieu interdit l'adoration des choses créées et même les images des choses créées. L'adoration devrait toujours être dirigée vers le Créateur vivant, juste, fidèle, aimant et saint. Alors, on sait qui est Dieu, mais qu'est-ce que c'est que le meurtre? Qu'est-ce que c'est que le meurtre? Le meurtre est défini dans la Bible à peu près comme il est défini par la plupart des gens aujourd'hui. Exode chapitre 21, versets 12 à 14 nous explique que le meurtre consiste à tuer un innocent par hostilité. Ça nous dit que le meurtre est un acte délibéré et prémédité. Et tout comme aujourd'hui, il y avait à cette époque-là une procédure judiciaire pour éclairer les différentes situations. Je ne veux pas entrer dans les dilemmes éthiques qu'on pourrait s'amuser à imaginer. Par exemple, est-ce que c'est un meurtre si un gars prémédite de tuer un autre et qu'à la dernière seconde, il change d'avis et déplace son pistolet, mais c'est trop tard, il a déjà tiré et la balle ricoche sur le mur, un mur, et atteint la victime et la tue. C'est pas du tout l'idée ici, ok? Oubliez ça. Pour l'instant, on va laisser ce genre de questions au jury et aux profs d'éthique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le meurtre est un acte délibéré, malveillant, commis contre un civil dans le but de le tuer ou de le blesser gravement et qui entraîne sa mort. Il y a d'autres choses qu'on pourrait peut-être ajouter, mais cette définition nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que Dieu interdit. Donc j'espère que vous comprenez l'idée là. Et donc quand on arrive à Exode chapitre 20, verset 13, où Dieu dit « Tu ne commettras pas de meurtre », on comprend avec notre définition de qui est Dieu et de qu'est-ce que c'est le meurtre, pourquoi Dieu interdit le meurtre. Et je vous donne deux raisons principales pour lesquelles le meurtre est interdit, basées sur le caractère de Dieu et sur la nature de sa création. Premièrement, et peut-être c'est une évidence, mais le meurtre est une atteinte à la vie. Quelle surprise, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le meurtre est une atteinte à qui est Dieu. C'est une atteinte au nom de Dieu, le « je suis », celui qui est, qui existe, qui vit. Dans le Nouveau Testament, Jésus reprend ses paroles en disant dans Jean chapitre 14, « Je suis la vie ». Ça définit qui est Dieu. Dieu est défini notamment par la vie. Ce Dieu a donné l'existence à l'homme, il a donné la vie à l'homme. C'est pourquoi la punition d'Adam et Ève était la mort. Le fait d'être séparé de celui qui vit. Leur attachement à celui qui définit l'existence a été coupé. Et donc le meurtre s'oppose à la vie. C'est une atteinte à la vie. La vie qui se manifeste par excellence en Dieu. Mais deuxièmement, le meurtre est une atteinte à l'image de Dieu en l'homme. L'homme est défini par l'image de Dieu qu'il porte. Comme le dit la fin de Genèse chapitre 1, Dieu créa l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Ça pourrait faire référence à notre posture physique, à notre corps. Mais comme Dieu est esprit, on devrait plutôt dire avec le psaume 8, que ça fait référence à notre responsabilité, à notre créativité, à notre rationalité dans la création, où l'homme est la plus éminente des créatures terrestres. Et donc le meurtre d'un être humain, comme si l'homme n'était qu'un animal dans un abattoir, c'est une atteinte à l'image de Dieu, et cela entraîne des conséquences sociales, des conséquences psychologiques, des conséquences judiciaires et d'autres conséquences. Le meurtre est un affront à la dignité de l'homme. Je dis tout cela afin de résumer deux idées sur lesquelles nous sommes déjà d'accord. Dieu est un être bon qui impose des mesures morales sur sa création. On est d'accord sur ce point-là, j'espère. Et le meurtre est une mauvaise chose, n'est-ce pas? J'espère. Ok. Mais dans un deuxième temps, maintenant, je voudrais voir comment ces deux concepts s'appliquent à la question de la peine de mort et ensuite à celle du massacre des Cananéens. Ça nous ramène à la question, Dieu a-t-il déjà enfreint le sixième commandement? Autrement dit, si le meurtre est un affront au Dieu vivant, à l'image de Dieu en homme et à la dignité de l'homme, pourquoi Dieu insiste-t-il pour que l'on rétribue la mort d'un homme par la mort d'un autre homme? Pourquoi la peine de mort dans l'Ancien Testament? On va commencer là. Il y avait beaucoup de crimes qui méritaient la peine de mort sous le régime théocratique d'Israël. Le meurtre, comme on a déjà dit, mais aussi le fait de maudire ses parents, ça méritait la peine de mort. L'enlèvement aussi, ça méritait la peine de mort. L'adultère, l'inceste, la bestialité, des actes homosexuels, la fornication, donc des péchés sexuels, méritaient la peine de mort. Le vol, la sorcellerie, le sacrifice d'un être humain, l'adoration des faux dieux, le blasphème, le non-respect du sabbat et l'outrage au tribunal. Mais juste pour que vous le sachiez, cette liste de Moïse est assez courte comparée à d'autres sociétés du Proche-Orient ancien. La façon dont certains crimes étaient sévèrement punis n'est pas hors norme pour Israël à cette époque-là, en fait. La plupart de ces crimes qui méritent la peine de mort pourraient être classés en trois catégories. Les crimes contre le caractère sacré de la vie, les crimes contre la source naturelle de la vie, c'est-à-dire la sexualité, et les crimes contre la pureté de l'adoration de Dieu. Mais de tous ces crimes qui méritaient la mort dans la loi mosaïque, le meurtre est mis à part par un principe antérieur de la loi de Moïse. Et ça, c'est très important. Dans Genèse chapitre 9, verset 6, nous lisons « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Ce verset montre que la peine de mort pour un meurtrier est une punition logique et juste, même indépendamment de la loi de Moïse. Et je dirais que la peine de mort a été pratiquée par le peuple d'Israël pour quatre raisons. Premièrement, la peine de mort montrait la gravité du meurtre de quelqu'un qui portait l'image de Dieu. Ça montrait que la vie avait beaucoup de valeur. Et donc, en exécutant le meurtrier, la dignité de la vie de la victime était reconnue et mise en valeur. D'accord? Mais deuxièmement, la peine de mort exprimait une justice appropriée au crime. Autrement dit, les punitions étaient toujours adaptées à la nature d'offense. La responsabilité de l'État d'Israël, comme de tous les États, n'était pas de pardonner aux criminels, mais de les punir afin de maintenir l'ordre dans la société. Troisièmement, la peine de mort a été mise en place en Israël afin de dissuader les offenses les plus graves. Et c'est vrai qu'en général, les gens sont moins inclins à la violence s'ils sont dissuadés par une punition sévère. Dans ce cas, une société qui est vraiment attachée à la sainteté de la vie met en place les moyens les plus dissuasifs possibles dans la limite de ce qui est juste. D'accord? Mais quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, si Dieu est saint, il a toutes les raisons d'éliminer, d'écarter, d'effacer toute impureté de sa présence. Dans Exode chapitre 19, verset 6, Dieu dit à son peuple, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Dieu ne permet pas le mal dans sa présence. Et le meurtre fait partie des crimes les plus détestables. Alors j'espère que vous voyez ici les différences qu'il y a entre un meurtre et la peine de mort approuvée par Dieu. Le meurtre vient d'un cœur pécheur, tandis que la peine de mort vient d'un cœur qui juge le péché. Le meurtre est instigé par le désordre, tandis que la peine de mort cherche à restaurer l'ordre moral. Le meurtre se moque de la vie, tandis que la peine de mort montre la valeur de la vie perdue. Le meurtre reflète la colère et la haine de l'homme, tandis que la peine de mort reflète la justice et la sainteté de Dieu. Le meurtre est commis au mépris de la loi civile, tandis que la peine de mort est strictement encadrée dans la loi mosaïque et elle est appliquée sur la base de plusieurs témoignages devant les autorités civiles. Si on comprend bien ces différences, on peut voir sans difficulté que la peine de mort instituée par Dieu pour le peuple d'Israël n'a rien à voir avec le meurtre. Mais j'ajoute aussi que nos présupposés modernes conditionnent des fois, ou souvent, notre perception de ce qui se passe et de ce qui doit se passer dans d'autres sociétés et à d'autres époques. La France, par exemple, a aboli la peine de mort en 1981. Et maintenant, depuis 30 ans, on a tendance à penser que la peine de mort est un châtiment barbare, pratiqué par des sauvages, ignorants et cruels. Cette idée est répandue par nous-mêmes, par des gens autour de nous, par des gens dans les médias, jusqu'à ce que ça devienne ridicule même d'imaginer qu'il y aurait peut-être de bonnes raisons pour certaines sociétés ou pour certains peuples, sous certaines conditions, d'appliquer la peine de mort. Et donc à cause de ce genre de présupposés et de conditionnement culturel, on n'arrive pas à voir facilement les différences qu'il y a entre le meurtre et le jugement. Et on se dit tout de suite, avec l'aide de nos présupposés culturels postmodernes, que Dieu impose un meurtre pour un meurtre. Quand en fait, il y a une multitude de bons arguments historiques et éthiques qui défendent la logique de la peine de mort comme jugement juste, sous l'autorité de l'État, dans un système judiciaire bien réglé, un jugement dont le but est le bien de la société. Et donc je répète qu'il n'y a aucune raison de penser que par la peine de mort, Dieu enfreint son propre commandement. Mais ça laisse toujours la question de la guerre contre les occupants de la terre promise. Dieu a-t-il ordonné le meurtre des Cananiens? Encore une fois, il est important de mettre les choses dans leur contexte. Et pour ça, je divise cette dernière partie en trois morceaux. D'abord, on va répondre à la question de qui étaient les Cananiens. Puis, on verra dans quelle mesure Dieu a ordonné leur massacre. Et enfin, on se demandera si ça constitue vraiment le meurtre de personnes innocentes. Alors, qui étaient les Cananiens ou les gens qui occupaient la terre promise? La fin de Genèse chapitre 15 nous donne une liste de 10 tribus qui ont fait des choses détestables, mais qui n'étaient pas encore prêtes à être jugées. C'est quelques siècles plus tard que Dieu a jugé ses peuples par les Israélites parce que le péché de ces peuples avait atteint sa plénitude. Certaines personnes qui pensent que Dieu est un xénophobe qui fait du nettoyage ethnique s'imaginent que les Cananéens étaient des êtres paisibles, doux, aimants, qui habitaient dans un paradis magique où le mal n'existait pas, où les gens se reposaient tout nus près des cascades et des plans d'eau, à manger des fruits qui tombaient des arbres pendant que des fées dansaient dans la lumière de la lune, ou quelque chose comme ça. Et ensuite, Yahvé, le dieu sanguinaire de la guerre, est venu avec ses bombes nucléaires, ses machines de destruction, pour tuer tout ce qui respire et pour exploiter la terre. Mais en réalité, et c'est ça qui nous concerne, je pense, la réalité, les Cananéens imitaient les pratiques de leurs dieux. Et parce que les dieux et les déesses des Cananéens pratiquaient l'inceste, il était naturel pour les Cananéens de pratiquer l'inceste à leur tour. De plus, les Cananéens pratiquaient, comme leurs dieux, la bestialité, l'adultère, des actes homosexuels, des péchés détestables aux yeux de Yahvé. Mais contrairement aux dieux d'Israël, les dieux des Cananéens étaient des sanguinaires. Pour satisfaire leur désir de sang, des sacrifices humains étaient offerts sur des brasiers de feu. C'était souvent les enfants qui étaient les victimes de cette pratique affreuse. En imitant les comportements de leurs dieux, les Cananéens s'adonnaient à toutes sortes de sexualités immorales sous prétexte de l'adoration de leurs dieux, afin que Baal, un des dieux principaux, envoie de la pluie sur la terre. Beaucoup de pratiques sexuelles étaient demandées. La logique était la suivante. Si le peuple fait des actes sexuels avec des prostituées sur des hauts lieux, ça incite Baal à faire l'amour à la déesse Anat, ce qui voulait dire plus de semences ou de pluie qui tombaient sur la terre. Et de plus, Anat était la déesse du sexe et de la guerre. Elle se baignait dans du sang humain. Elle portait sur elle comme des bijoux des mains et des pieds coupés. Elle aimait marcher sur les têtes des gens qui avaient été décapités. Elle prenait plaisir au sang et au massacre des êtres humains. On peut vérifier ces choses dans des documents écrits à cette époque-là. Il y avait d'autres civilisations tout aussi horribles, ou peut-être même pires, que celles des Cananéens dans l'histoire du monde. Mais les pratiques des Cananéens, qui reflétaient leur faux Dieu, nous montrent pourquoi un Dieu trois fois saint voudrait déverser son jugement sur eux. Mais ensuite, dans quelle mesure Dieu a-t-il ordonné leur massacre ? Dans Josué chapitre 10, versets 40 à 42, et plus tard au chapitre 16 de Josué, on lit que Josué a vaincu tous les rois des Cananéens. Il a massacré tous les habitants de la terre promise, tous les habitants. Mais plus tard, dans le livre de Josué, dans le même livre, et même dans le livre des juges, on découvre que ce n'était pas vraiment le cas. Il y avait des Cananéens partout au milieu des Israélites. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un massacre total de la population? Une campagne militaire précise dont le but était de prendre possession de la terre? Et je dirais que c'était plutôt le deuxième. Les textes de l'Ancien Testament doivent être interprétés selon leur contexte historique et culturel. Et Josué a employé l'exagération comme effet de style, comme tous ses contemporains, afin de communiquer sa victoire. Et donc une phrase comme « J'ai tué tous les habitants, j'ai dévasté la terre afin d'effacer leur nom sous les cieux » veut dire plus précisément « J'ai vaincu l'ennemi ». D'accord ? On trouve ce genre d'exagération tout le temps dans la littérature orientale. Au 15e siècle avant Jésus-Christ, par exemple, le roi d'Égypte, Thoutmôsis III, a effacé un peuple qui pourtant apparaît en pleine forme quelques siècles après. C'est pas très logique. Le roi Hittite, Mersélie II, a vidé un certain territoire, selon lui, de tous ses habitants. Ce n'était pas vrai, historiquement. Le roi de Moab s'est vanté que les Israélites avaient été éradiqués de la terre. Une fanfaronnade absurde. Mais ces commentaires n'étaient pas des mensonges. C'étaient des hyperboles parfaitement acceptables pour exprimer une victoire à cette époque-là. Personne dans le monde ancien ne l'aurait compris autrement. Et même aujourd'hui, on emploie des expressions similaires pour exprimer des victoires dans le sport, par exemple. On dit « on les a dégommés, on les a écrasés, on les a massacrés ». Mais nous savons tous qu'est-ce que ça veut dire. C'était une victoire, peut-être même une petite victoire. 1-0, 2-1, quelque chose comme ça. Mais c'était un massacre, vous voyez. Bien qu'il y a beaucoup de références, d'autres références bibliques à lire, beaucoup d'autres exemples à citer, je passe à quelques exemples où la destruction totale était vraiment suggérée par le texte. Josué chapitre 6, verset 21, par exemple. Ce texte nous dit, par rapport à Jéricho, « Ils voulèrent à l'interdit, aux filles de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons et ânes. » Et plus tard, dans Josué 8, le même langage est employé pour le peuple d'Aï, une autre ville dans la région. Ça nous semble cruel et injuste. Il est probable, quand on considère les descriptions employées dans le récit et l'ordre explicite que Dieu a donné, que les Israélites ont vraiment anéanti ces deux villes. Mais ce que le texte ne dit pas, c'est que ces deux villes étaient des forteresses militaires. Jéricho, par exemple, c'était la première défense contre les attaques potentielles venant par les routes principales vers les centres peuplés de l'intérieur du pays. Selon quelques ressources que j'ai consultées sur le sujet, on a des preuves archéologiques que ces villes, Jéricho et Haï, étaient assez petites et ne contenaient pas de population civile très importante ou très importante à cette époque-là. Ça explique pourquoi les Israélites ont pu marcher autour de Jéricho 7 fois dans une journée et avaient encore assez de temps pour combattre la ville et pour accomplir leur mission. De plus, il est difficile à traduire le mot « Elef », c'est un mot hébreu. C'est très difficile ce mot. Ça peut dire mille, ou même escouade, ou même unité de combat. Et donc, ce qu'on traduit par 12 000 personnes, souvent, qui ont été tuées, en réalité, ça peut dire quelques centaines de personnes. On ne sait pas exactement. J'ajoute aussi que ce n'était probablement pas un massacre total. Parce que normalement, une population ne se contente pas d'attendre d'être attaquée par des envahisseurs, n'est-ce pas? D'habitude, la population s'enfuit. Et donc, encore une fois, on a des raisons de penser que ce massacre n'était pas aussi ignoble qu'on le pense. Mais peut-être que vous ne me croyez pas, je comprends. Peut-être que c'est trop commode, trop facile comme réponse. Et donc, qu'arriverait-il si Dieu avait vraiment demandé à son peuple de tuer les Cananéens, hommes, femmes et enfants? Est-ce qu'on est en train d'ignorer ou même de minimiser toutes les références bibliques au massacre des populations civiles? Il y a pas mal de références dans le livre des Nombres, en fait, qui parlent des massacres comme ça. En Josué, on trouve ces références aussi dans le livre des Juges. Il y a beaucoup de références au massacre qui semblent indiquer que c'était un massacre total, hommes, femmes, enfants. Donc on peut se poser la question de nouveau, est-ce que la conquête de la terre promise constituait le meurtre de personnes innocentes? Et encore une fois, je dirais que non. Romains chapitre 3, verset 10, nous rappelle qu'il n'y a pas de juste. Tous sont pécheurs. Il n'y a pas d'innocent. Non seulement cela, mais il y a pire qu'un péché grave. Il y a un péché très grave. La conquête de la terre promise révèle le jugement de Dieu contre un peuple qui a péché abominablement contre Dieu et contre sa création. La conquête de la terre promise révèle les normes morales de Dieu pour tous les peuples. Et la conquête de la terre promise a servi à établir une zone où Israël serait en principe protégé des païens et de leurs pratiques détestables. Ce jugement n'était pas du tout un génocide spontané et cruel. Dieu a patienté pendant des siècles, c'est ce que dit le texte. Il a laissé aux Cananéens l'occasion de se repentir, et au défaut de se repentir, l'occasion d'atteindre la pleine mesure de leurs péchés avant de les punir. Dieu a utilisé son peuple élu pour exercer un jugement, dans ce cas la peine de mort, sur des criminels. En demandant à son propre peuple d'effectuer ce jugement, son peuple a appris, et même les nations voisines ont appris des choses concernant le caractère saint de leur Dieu. De la même manière, plus tard, Dieu utilise des peuples païens pour juger Israël aussi. En fin de compte, il n'y a pas de contradiction entre le sixième commandement de Dieu et la peine de mort instituée par Dieu. Il y a aussi une grosse différence entre le meurtre et le jugement exercé contre le mal sous l'autorité de Dieu. Voilà, j'arrête là et...